Nous sommes le 6 avril, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce numéro de Jeudredi, votre rendez-vous hebdomadaire sur Agone Radio. Ce soir, c'est Jeudredi, spécial Pâques, youpi. Nous recevrons dans l'ordre le chanoine Gilles Roduit, curé de la paroisse Saint-Sigismond, pour évoquer l'importance que revêt la fête de Pâques dans la religion chrétienne et les célébrations de la Semaine Sainte à Saint-Maurice et dans son abbaye. Nous recevrons ensuite Cédric Roser, membre du comité du TCS section Valais-Vallis, pour nous parler des activités de la section à l'occasion de la grande course aux œufs organisée ce dimanche dans tout le Valais et notamment à Saint-Maurice. Nous aurons également Anne Brazet, la chef du service tourisme, culture et sport TCS également, voilà, de la commune de Saint-Maurice. Elle nous présentera le grand jeu énigme de Pâques mis sur pied du 7 au 23 avril par Saint-Maurice Tourisme. Et puis nous aurons finalement Stéphane Davet. Il viendra nous parler du ciel du mois d'avril en ce lendemain de pleine lune. Nous sommes le Jeudredi 6 avril. Nous sommes ensemble pour une petite heure sur Agone Radio.
Pâques est donc une date très attendue et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est la fête la plus importante du christianisme qui coïncide avec la Semaine Sainte. C'est aussi la fin du carême. Et pour les enfants, la course aux œufs et les lapins de Pâques. Nous ne pouvions pas commencer cette émission sans évoquer Pâques avec le curé Gilles Roduit, qui nous fait l'honneur de sa présence dans nos studios aujourd'hui. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Pâques, c'est la fête la plus importante du christianisme. Pourquoi ?
C'est la fête la plus importante du christianisme parce que c'est le jour où on est sauvé, où on se souvient qu'on est sauvé. On n'est pas réduit à la poussière, on n'est pas réduit à la cendre, on n'est pas réduit à la maladie, on n'est pas réduit au péché, à la pauvreté de nos vies. On est promis à un avenir sera de résurrection.
Donc c'est la semaine de l'espoir.
C'est la semaine de l'espérance folle.
Nous avons le jeudi, le vendredi et le samedi saint et le dimanche de Pâques. Ce sont donc quatre dates de commémoration des événements qui ont été vécus par Jésus pendant cette semaine sainte. Ça colle aux évangiles, à l'histoire qui est racontée.
Ça colle aux évangiles, à l'évangile, puisqu'on a quatre récits de la passion de Jésus dans les quatre évangélistes. Ça colle aux évangiles le jeudi où Jésus a institué l'Eucharistie et a lavé les pieds de ses apôtres, le vendredi où il donne sa vie sur la croix, le samedi où c'est le silence du tombeau et le dimanche où les femmes trouvent le tombeau vide et Jésus leur apparaît.
Il y a plusieurs activités prévues, hein, pour cette, dont notamment une messe ce soir, une première messe à 19h à Vernaya, la messe de la Seine, hein, c'est accent grave N-E et pas Seine.
Rien à voir avec les spectacles.
Spectacle, exactement. C'est quoi la signification de cette célébration ?
La célébration cette célébration, elle rappelle justement le dernier repas que Jésus a vécu avec ses apôtres, au cours duquel il a institué l'Eucharistie, c'est-à-dire qu'il a pris le pain et le vin, il a dit « c'est mon corps, c'est mon sang ». Les apôtres n'ont pas très bien compris ce qui s'est passé, ils l'ont compris un jour plus tard, puisque Jésus donnera son corps et son sang sur la croix un jour plus tard, et ça deviendra l'élément fondateur de ce qu'est la messe. On célèbre la messe parce qu'un jour, Jésus a fait ce geste et on refait ce geste-là, et ce soir également, on rappellera et on fera le signe que Jésus a fait ce soir-là, il s'est mis à terre aux pieds de ses apôtres, juste avant lui de mourir, et il a lavé les pieds de ses apôtres pour nous rappeler que d'être chrétien, c'est être un serviteur.
Donc c'est une des messes les plus importantes pour la...
C'est une messe qui est souvenir de cet élément de la Pâque, oui.
C'est une messe particulière ou c'est une messe normale ?
C'est une messe particulière parce que justement il y aura le lavement des pieds qui est fait à ce moment-là. On va certainement prier sur les prêtres puisque la fête des prêtres, c'est le jour où les prêtres ont été inventés par Jésus. Et puis il y a un moment de prière aussi, on commence déjà à s'unir à Jésus qui entre dans le silence de la nuit pour préparer son cœur à arriver à donner sa vie tout entière.
C'est aussi la soirée où il y a l'épisode avec Judas.
Oui, c'est ce soir-là, exactement. Oui.
Demain vendredi, il y a le chemin de croix de Saint-Maurice à Notre-Dame-du-Sée, départ à 10h.
Départ à 10h au pied des marches. Je rappelle que le chemin de Notre-Dame-du-Sée est fermé jusqu'à la fin avril par nos autorités communales. Donc je vous invite volontiers, mais sachez que
c'est
interdit de monter dans ce chemin. Mais on le fera avec grande joie puisqu'on le fait chaque année, où on revit le chemin de Jésus qui monte jusqu'à la croix.
Donc si vous n'allez pas à Notre-Dame-du-Sée, vous restez...
Si on ne va pas à Notre-Dame-du-Sée, on fera ça à Saint-Sigismond.
On parle de marche, de méditation et d'intercession.
Exactement, on va marcher, puisque c'est le rôle des hommes d'être debout et de marcher, que Dieu nous a fait debout, nous a créé debout, il a soufflé son haleine dans nos poumons pour qu'on ait le courage de marcher. C'est une prière d'intercession parce qu'on va penser à tous ceux qui, à la suite de Jésus, aujourd'hui souffrent. Et nous prions pour tous ceux qui souffrent dans le monde.
Avec le chemin de croix classique,
avec les 14 étapes, c'est juste 14 stations.
Il y a aussi la célébration de la Passion à Vernaya.
Aussi la célébration de la Passion dans différents lieux. Le vendredi saint, un peu dans tous nos villages, il n'y a pas assez assigissement parce qu'il y a la basilique en même temps. Et cette Passion, c'est le rappel, c'est le récit de la Passion qui est célébré.
Le vendredi et le samedi sont dit des jours aliturgiques, qui signifie que l'Église ne célèbre pas l'Eucharistie. Samedi, il y a une vigile pascale, c'est une veillée de prière.
Il faut que vous êtes drôlement bien informé.
Très
impressionné par Victor.
Évidemment.
Aliturgique sans liturgie. Après, j'ai une question par rapport à ces deux jours.
Le vendredi et le samedi sont des jours aliturgiques, c'est vrai, parce que comme le Christ est mort, on respecte la mort du Christ. Du vendredi saint au dimanche de Pâques, le Christ est mort, on ne célèbre pas les signes des chrétiens. C'est une forme de deuil qu'on vit avec le Christ, oui. Oui, on attend la Pâque pour reprendre les célébrations avec un cours normal.
J'ai toujours appris, il me semble, que les curés, les prêtres devaient faire une messe par jour.
Oui.
Et vous faites comment pendant ces deux jours ?
Il n'y a pas.
Pas de messe.
Il n'y a
c'est
pas.
Deux seules exceptions de l'année.
Oui, 360. Il y a des célébrations, mais sans la messe.
J'ai lu que le samedi n'était pas ouvert les guillemets. Un jour de lamentation et de deuil, mais le jour d'un silence aimant. Mais on parle quand même d'un moment de deuil et de doute quand même. Parce que...
Alors ce moment de deuil et doute, c'est un moment extraordinaire parce que notre credo nous rappelle que le samedi saint, Jésus est descendu aux enfers. C'est-à-dire que Jésus a vécu après plusieurs millénaires de présence humaine sur la terre. Et on pense, on célèbre le samedi saint aussi, ce Jésus qui va visiter tous les morts pour leur dire qu'ils sont dans la résurrection. Il va réveiller tous les morts des siècles passés pour dire cette résurrection. Bon, ça a le sens.
Aujourd'hui, c'est facile parce qu'on connaît la suite. Mais à l'époque, il y a quand même eu... est-ce que c'est écrit dans les évangiles qu'il y a quand même des doutes ou des gens qui doutent à ce moment-là?
Il y a toujours eu des doutes dans la foi. Si tu n'en as pas, tu as de la chance. Moi, on en a tous des doutes. Et notre chemin de foi, c'est toujours un chemin de passer par-dessus nos doutes pour croire en la vie.
Le dimanche de Pâques, le jour le plus important, beaucoup plus important que la nativité ou d'autres fêtes.
Le dimanche de Pâques est le jour le plus important pour les chrétiens, plus important même que Noël, dans le sens où c'est le moment où Dieu nous donne la vie, mais vraiment d'une manière parfaite et totale. Le jour de Pâques, c'est une fête merveilleuse parce que c'est le jour où on sort de nos déserts, où on sort de nos prisons, on sort de nos esclavages et on célèbre que la vie est plus forte que ça. Le jour de Pâques, c'est rappeler... Je sors d'une funéraille maintenant, juste avant de venir à cette célébration. Hier, j'ai eu le deuil, la souffrance de perdre un ami très cher, le curé de Martigny, Jean-Pascal Genoux, qui sera enseveli lundi matin, et de vivre ces jours en pensant à mes amis là, qui sont déjà là et qui déjà eux voient la clarté du ciel. C'est en même temps une grande souffrance parce qu'on perd, il y a la présence de l'amour est toujours là, mais en même temps on a cette espérance folle qui dit que Jean-Pascal, il peut pas être mort. C'est pas possible. De même que Marc Pochon, qu'on a enterré, sa famille elle-même tout à l'heure vient nous le dire. Non, il est vivant pour nous.
C'est ce que rappelle le dimanche de Pâques.
Pâques est le fondement de cette foi en la résurrection.
Les orthodoxes, les catholiques et les protestants appartiennent à la même grande religion, le christianisme. Est-ce qu'il y a des différences de célébration ?
Pas fondamentalement, à mon avis. Pas fondamentalement. On chante tous des alléluia. Après, il y a des questions de calendrier avec les orthodoxes parce qu'eux n'ont pas encore. Peut-être qu'un jour, on aura le même calendrier. Ils n'ont pas fait le changement de calendrier qui a eu lieu, je crois, au Xe siècle.
Conseil de Nicée.
Bravo. Peut-être quelque chose comme ça. Je ne suis pas très fort pour ces choses-là. Ouais.
Oui, alors j'adore l'histoire. C'est comme ça. Je l'ai lu, en tout cas. Ouais. Dernière question, Gilles. Non, j'en ai encore deux. Il y a aussi la Pâque juive,
oui.
Qu'on appelle le Pessah.
Alors la Pâque chrétienne est l'enfant de la Pâque juive, puisqu'à la Pâque chrétienne, le mot Pessah en hébreu veut dire le passage. La Pâque rappelle le peuple des Juifs qui était esclave en Égypte pendant des centaines d'années et qui va sortir dans le désert pour retourner chez eux, dans leur pays. Ils espèrent traverser ce désert pour aller chez eux, pour être enfin un peuple libre. Et Jésus va faire exactement la même chose. Au lieu de rester 40 ans dans le désert, comme le peuple hébreu qui revient dans son pays, eh bien Jésus va passer 40 jours de prière dans le désert et il va lui aussi passer par plus que la mer Rouge, il va passer par la mort. On ne peut pas aller plus loin que ça, passer jusqu'à la mort pour ressortir à la vie. Donc il y a un lien très fort entre les deux. De même également qu'à la Pâque juive, on avait sacrifié un agneau et Jésus est appelé maintenant désormais l'agneau pascal. C'est l'agneau de Pâque, celui qui est sans péché et qui est mis à mort et qui est pourtant la source de la vie.
Dernière question, Gilles, parce qu'après on doit vous laisser partir, oui. Parce qu'il y a la célébration ensuite à Vernaya, c'est juste.
Oui.
Hein. Alors que c'est la fête la plus importante, Pâques n'est officiellement pas un jour férié dans les cantons catholiques, mais contrairement aux cantons protestants où c'est très important, c'est férié et fermé. Vous savez pourquoi ? C'est très étonnant quand même.
Alors c'est le vendredi saint qui n'est pas chômé ou pas... C'est pas dire que c'est pas férié. Non, c'est pas férié, c'est vrai, c'est pas férié. Ça veut dire qu'il n'y a pas obligation pour les chrétiens d'aller prier le vendredi saint. Mais c'est pas chômé non plus parce que les catholiques ont beaucoup plus de fêtes que les cantons protestants. C'est une répartition un peu équitable des fêtes.
On aurait nous, trop
on a,
de.
On n'a pas le jeûne fédéral, alors on a ouais, d'autres choses, voilà. Des choses comme ça.
Intéressant. Merci beaucoup, Gilles, d'être passé. Nous devons vous libérer, comme je l'ai dit avant, pour la messe de la Seine ce soir à Vernaya à 19h. On rappelle demain, vendredi, le chemin de croix à 10h. Samedi, la vigile pascale à 20h. Et dimanche, la messe de la résurrection à Saint-Sigismond à 18h. C'est juste.
Exactement.
Merci
beaucoup de votre intérêt. Et puis, bonne Pâques à chacun.
Merci.
Jeudi redi, Fabien Lafarge, Victor Glacet, 17h30, 18h30, en direct sur Agone Radio.
I'm so cold, comfort, come for me. It's 3 a.m. on Thievery. Me die to heal my pain, 'cause I don't really want to marry Jane. Oh là là là, et si le problème était moi? Si j'ai mal, c'est du mal à parler. Oh quand on aime, si le dire est un problème, finir seul, faut pas s'étonner.
We'll keep it simple. Simple. You're the only medicine I've been taking. We'll keep it simple, baby.
Emmurer nos émotions. Parfois, ma foi, les gens le font. À la fin, au fond, tout ça fait.
Et on l'a dit en introduction, signifie aussi la fin du carême. Pas besoin d'un spécialiste pour nous en parler, chacun l'expérimentera dimanche par peut-être une crise de foi ou une gueule de bois lundi. Par contre, pour la course aux œufs du TCS, Touring Club Suisse, je le précise, on le verra après pourquoi.
À ne pas confondre avec l'autre TCS, oui.
Nous avons besoin des éclaircissements d'un fin connaisseur, membre du TCS Valais, Cédric Rezer.
Bonsoir, merci.
On connaît le TCS par les voitures jaunes de dépannage, moins par l'organisation d'événements plus festifs. Alors Cédric, cette course aux œufs, elle va se passer dimanche, mais ça se passe comment? C'est où?
Alors c'est une course aux œufs qui se passait à l'époque dans le Bois Noir. Maintenant on a changé de site, on va à la maison autour, dans les terrains qui entourent la maison de la famille à Vérolier. C'est sympa, c'est assez facile, il y a des belles cachettes. Et c'est assez facilement accessible, peut-être plus facile que quand c'était dans le Bois Noir.
Bois Noir, c'est plus possible?
Ouais, c'est un petit peu compliqué parce que ben, ça a changé de zone, c'est pas mal protection de la nature et tout, et ça devenait un petit peu compliqué, avec surtout le parkage des voitures pour les gens qui venaient. Et voilà, on a trouvé un autre endroit, c'était plus simple.
Ça se passe à l'extérieur de la maison? Je pensais à l'intérieur, parce que j'imagine que là, il y a aussi beaucoup
de d'endroits.
Cache. Ouais, de cache, ouais, voilà, pour cacher des œufs.
Alors non, c'est à l'extérieur, mais il y a des jolies cachettes, et des petites cachettes subtiles.
On parle de course, on parle de la traditionnelle course aux œufs. On sait de quand remonte cette tradition du traditionnel?
Alors personnellement, moi, je ne sais pas, mais je me suis un petit peu renseigné. Ça fait plus de 20 ans. On parle de 30 ans que ça se fait. Donc, par le TCS Valais.
Le but d'une course aux œufs, c'est de rechercher des œufs. Hein. On va peut-être expliquer, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. C'est donc pour les enfants.
Principalement pour les enfants.
Et les grands-enfants aussi?
Alors les grands-enfants aussi, oui, tout à fait. Tout le monde peut venir, tout le monde est accueilli, il n'y a aucun problème. C'est vraiment très festif, c'est famille. Le but, il est de passer un bon moment.
Il faut être membre du TCS pour participer?
Pas forcément. La seule différence qu'il y a, c'est que les personnes sont membres du TCS, c'est gratuit pour eux. Et puis les personnes qui veulent venir mais qui ne sont pas membres, c'est 5 francs par personne. Au maximum 15 francs par famille.
Donc il y a très peu de
très abordable, très abordable.
Ouais, c'est abordable et puis pour passer un moment, ça reste accessible.
Donc rendez-vous à 9h30.
9h30.
Concrètement, ça se passe comment? C'est une course avec un départ où chacun, ou alors chacun peut aller à son rythme, ou si je viens à 9h30, je prends tous les œufs, il y en a plus un.
Non, alors heureusement à 9h30, il restera des œufs. C'est de 9h30 à midi. Ça devrait pas forcément s'appeler course aux œufs, mais plutôt chasse aux œufs, parce qu'il y a pas de départ, c'est pas chronométré, c'est vraiment À 9h30, les premiers arrivent. Il y a des gens qui arrivent à 11h30. Il y a toujours des œufs, il n'y a aucun problème. C'est vraiment tranquille. Le but, c'est de trouver des œufs. C'est surtout fait pour les petits, pour les enfants, les jeunes ados. Les adultes vont vite s'embêter parce que c'est plus facile à trouver.
Il y a un apéro?
Et malheureusement, il n'y a pas d'apéro.
Ah, je me posais la question par rapport à 11h, 11h30. Ça dure combien de temps pour faire le parcours, enfin pour rester à peu
Alors,
près
Je pense que les tout-petits, il leur faut une bonne demi-heure, 40 minutes, 45 minutes. Surtout qu'on a fait maintenant une zone vraiment pour les petits, donc de 0 à 6 ans. Là, c'est vraiment un petit endroit où ils vont avec les parents et c'est très facile pour eux.
Donc, il y a plusieurs parcours.
Il y a deux parcours. Et puis, le deuxième parcours, ouais, si on veut faire tout le tour, 45 minutes, on trouve des œufs encore après 45 minutes.
Ah, ça attise notre curiosité.
Donc Victor, hein. Tu ne pourras pas aller dans le jardin des tout-petits, hein, si jamais.
Non, je pensais aller à 9h30 et puis après à 11h pour l'apéro, mais bon, voilà. Tous les participants reçoivent un prix?
Alors, tous les participants, bon, surtout les enfants qui s'inscrivent chez nous, sur place.
On vient pas pour le lapin. Hein.
Ah, bon, ben voilà. Alors, si on trouve un œuf, de toute façon, on aura un prix, ça c'est prévu.
On peut savoir le nombre d'œufs qui sont cachés?
Alors ça, je ne les ai pas comptés, je les ai reçus aujourd'hui pour les préparer, il y en a beaucoup.
Il faut plus qu'une voiture pour les transporter?
Non, mais un coffre de voiture est bien plein.
Des œufs cuits durs?
C'est un secret d'État.
C'est des œufs cuits durs qui sont de couleur et nous on met des petits autocollants du TCS dessus.
Il y a d'autres animations? Alors comme il n'y a pas l'apéro, est-ce qu'il y a d'autres animations?
Alors oui, il y a d'autres animations. On a deux personnes, sauf erreur, qui seront là pour faire du maquillage, surtout pour les enfants. Histoire de faire une petite, un petit truc sympa. Et il y aura possibilité aussi avec un petit concours de faire des selfies avec vraiment un concours et avec des prix à la fin. Donc il faudra envoyer, ce sera tout expliqué sur place.
Donc il n'y a pas que la course aux œufs.
Il n'y a pas aussi que la course aux œufs, ouais.
Il manque plus que l'apéro, quoi.
Alors, il manque plus que l'apéro. Peut-être pour l'année prochaine, on verra.
On lance
l'idée. Après, hein. Victor.
Ouais,
après,
bah voilà.
On va redescendre à pied, hein, monter à pied, redescendre à pied et puis profiter ensuite.
Bon, moi, je suis à côté. Hein. Plus généralement, le TCS ne fait pas que du dépannage ou des courses aux œufs, mais propose aussi des services utiles comme des contrôles de vélo et autres. Ça se passe comment?
Oui, alors tout à fait. Alors pour les papas, le dépannage, c'est très connu. Les mamans, j'étais très étonné, elles connaissent plein d'autres facettes du TCS. Donc il y a beaucoup de choses. Une des choses, exactement comme tu viens de le dire, le contrôle des vélos. Le contrôle des vélos, c'est surtout les communes qui font les demandes. Et on vient un jour, voire deux jours dans la commune faire des contrôles quand les enfants sont à l'école. Ils peuvent amener leur vélo, c'est gratuit, on leur fait les contrôles, des mini-réparations. Si après il y a une grosse réparation à faire, ce sera noté et puis on va demander aux parents d'aller le faire. En général, c'est en lien aussi avec les polices municipales. Ça fonctionne bien dans le Valais central. On a vraiment de la peine dans le Bas-Valais. Donc peut-être
j'ai vu qu'à Saint-Maurice, il n'y avait pas beaucoup de dates.
Hein. Oui, c'est un petit peu difficile, mais
on parlait au conseil.
On y travaille.
Oui, il faut leur dire à ce conseil de planifier un peu des choses.
Au TCS local. Hein.
Voilà. Donc, oui.
Toujours dans le domaine des deux roues, cours de vélo, on apprend à pédaler?
Alors, cours de vélo. Le TCS directement ne donne pas des cours de vélo. On est associé avec Pro Vélo, qui eux font justement des choses par rapport au vélo. Sauf erreur, il n'y a pas de cours de vélo pour apprendre à pédaler pour les jeunes enfants.
C'est une boutade, hein.
Oui, ouais, tout à fait. Mais par contre, c'est une grande emprise. Maintenant, il y a une énorme demande vu que le vélo est en plein essor, vélo électrique, énormément de personnes ont ces vélos qui sont pas forcément si simples que ça à employer. Donc, je sais que Pro Vélo donne des cours et je pense que maintenant il y a beaucoup d'autres organisations qui vont commencer à donner des cours.
Et en termes de vitesse, de sécurité.
Voilà, exactement comment l'employer, comment s'arrêter et tout ça. Ouais.
TCS est aussi partenaire de la Slow Up.
Oui.
Fait quoi dans la Slow Up, TCS? Dépanne des vélos?
Alors non, dans la Slow Up, on est partenaire, on leur donne, on a deux stands. Donc la Slow Up se passe sur Sierre et Sion, sauf erreur, si je ne dis pas de bêtises. Mm-hmm. Je sais qu'on a deux stands, un stand à Sierre, un stand à Sion, où on organise des concours, des jeux, des animations pendant la Slow Up. Et on essaye un petit peu justement d'expliquer qu'il y a des cours et des choses à faire un petit peu attention avec les vélos. Quoi. Surtout ça, des contrôles aussi. Je crois qu'ils font aussi des contrôles des vélos à ce moment-là.
Pour revenir aux voitures, hein, parce que le TCS là-bas, c'est quand même ça. Il y a des cours de conduite sur neige et glace, c'est des cours de rafraîchissement de connaissances. Hein. Donc bon, on sait tous conduire, mais en quoi ça consiste ces cours?
On sait tous conduire, mais est-ce qu'on le fait bien? Voilà, c'est une question à se poser. Donc, ces cours, c'est pas pour dire vous savez pas conduire, vous êtes nul et il faut arrêter. C'est vraiment des cours de perfectionnement. Quand on fait, on a fait les permis, ça fait quelques années pour moi, on a appris à conduire une voiture, mais il y a pas mal de choses qui ont changé dans la circulation routière et de la façon de conduire avec toutes les aides à la conduite qu'on a avec ces voitures. Freinage d'urgence, moi, je l'ai fait le jour de mon permis, depuis, on n'en a plus fait.
Sans ABS.
Sans ABS à l'époque. Donc maintenant, voilà, ces voitures, c'est un petit peu différent. Donc c'est plutôt une petite remise à niveau et des choses comme ça qu'on propose. On a aussi les cours de conduite sur neige. Pour nous, le Valais, on est concernés parce que les cours de conduite sur neige. Un Genevois aura moins de problèmes avec les cours de conduite sur neige, à part quand il vient le week-end, mais les routes sont en ordre. Nous, on roule sur la neige, donc il y a ces cours de conduite. Et par exemple, le TCS, maintenant, depuis une année, fait des cours. Il y a possibilité de faire la deuxième phase du permis pour les jeunes à Bourg-Saint-Pierre sur la neige. Et c'est un cours qui est valable, qui est validé pour le cours deuxième phase. Donc,
doublement gagnant, là.
Oui, c'est vrai.
Et par rapport aux aînés, il y a des cours particuliers, je pense peut-être aux personnes qui ont 65 et plus.
Alors, il y a des cours pour les aînés, ce n'est pas très demandé, il y a de la demande, on donne certains cours comme ça. Sur le site du TCS, justement, il y a tous ces cours, c'est tout expliqué, comment les différences de ces cours. Il y a une demande, les aînés, surtout quand ils doivent aller faire leur contrôle au dernier moment et tout ça, un petit rafraîchissement, ça leur fait du bien, ils aiment bien. Donc voilà, on essaye d'être actif là-dedans.
C'est réservé aux membres?
C'est pas réservé aux membres. La seule différence qu'il y a, un membre aura un prix que la personne qui n'est pas membre et qui ne veut pas venir membre peut y aller, mais elle payera un tout petit peu plus cher.
Dernière question, Cédric. On parle de plus en plus de mobilité électrique, panne électrique ou plus de batterie. On peut aussi appeler le TCS?
Alors ça, c'était le premier truc qu'a fait le TCS, c'est les dépannages des véhicules. Maintenant, il commence à avoir des dépannages justement de vélos électriques. Tous ces trucs-là, c'est en train de se mettre en place. Je sais que dans la partie suisse-allemande de la Suisse, c'est déjà en phase de test et il y a des dépanneurs pour les vélos, pour les trottinettes électriques et tout ça. En Suisse romande, je crois que ça va commencer, c'est encore pas tout à fait en place. Mais on peut le faire. Par contre, tous ces services-là, malheureusement, sont réservés aux membres.
Et puis, pour les véhicules électriques? Même chose.
Alors pour les véhicules électriques, je sais que le TCS est équipé d'appareils pour faire les dépannages ou les recharger les batteries.
Il faut un gros chargeur dans la voiture du TCS pour recharger la Tesla.
J'ai encore une dernière question au garagiste. Quand on est mécanicien sur automobile, on a surtout fait de la mécanique. Maintenant, on fait de l'électrique. C'est un métier qui est complètement différent, aussi par rapport au patrouilleur TCS.
Oui, alors c'est un métier qui est complètement différent. C'est un métier qui fait peur. Parce qu'il est en pleine évolution et ben, le changement fait peur. Donc un mécanicien, quand ça fait 30 ans qu'il fait la même chose, tout d'un coup, l'électricité n'a plus rien à voir, ça fait peur, mais rien n'est impossible. Et puis on peut se former continuellement. Il y a des pannes. Une voiture électrique, ce n'est pas qu'elle n'est jamais en panne. Il y a de l'entretien à faire et il y a aussi du dépannage à faire.
Merci beaucoup Cédric. Plein succès pour dimanche. On rappelle 9h30 à la Maison de la Famille pour la course aux œufs pour les petits et les moins petits.
Merci beaucoup et ben, venez en nombre le maximum.
On passe le message.
Climbing on trees, go through every emotion. When you know that they don't care, darling, that's when I'm with you. Oh, I'll go with you anyway. If you get up in a jet plane or down in a submarine, if you get onto the next train to somewhere you've never been, you wanna ride in a fast car and feel the wind in your hair, darling, just look beside you. Oh, I'll go with you anywhere. Oh, and I will be with you when the darkest winter comes. Oh, and I will be with you to feel the California sun. Oh, and I will be with you in the nighttime when it's through. Oh, I'll go anywhere with you. If you get up in the hillside, if you ride out on the plains, if you go digging up dirt, if you go out dancing in the rain, if you go chasing in rainbows just to find the gold ain't there, darling, just look behind you. Oh, I'll go with you anywhere. Darkest winter comes. Oh, and I will be with you to feel the California sun. Oh, and I will be with you in the night time when it's through. Oh, I'll go anywhere with you. Yeah, I'll go anywhere with you. Winter comes, oh, and I will be with you to feel the California sun. Oh, and I will be with you in the nighttime when it's through. Oh, darling, I swear I'll go anywhere with you. Oh, I'll go anywhere with you. Oh, I'll go anywhere with you.
Heures. Le théâtre du Martelet accueille Édouard Baird dans Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce. Une pièce tirée de l'ouvrage écrit par cet acteur à l'humour distingué et sarcastique qui propose une prestation de haut vol emplie d'émotion et de drôlerie. Édouard Baird en scène, c'est le jeudi 4 mai au théâtre du Martelet à Saint-Maurice. Billets en vente sur martelet.ch et auprès de Saint-Maurice Tourisme.
Jeudi Redi, Fabien Lafarge, Victor Glacet, 17h30, 18h30, en direct sur Agone Radio.
Il faut vivre dans une grotte pour pas s'en rendre compte, ça bouge. À Saint-Maurice, Nuance Pop, marché monastique, Lumina, marché de Noël, carnaval, tout autant d'événements qui viennent rythmer notre belle année villageoise depuis peu. On a aussi de quoi s'amuser à Pâques avec une sorte de grand jeu de piste à travers la ville. Et j'ai pas tout compris, mais on est là pour en parler justement. Alors, ces différents événements sont nés d'initiatives, parfois personnelles, parfois communales, parfois c'est une longue tradition. La plupart de ces événements se réalisent grâce au travail de notre équipe de l'Office du tourisme local, bien que on ne doit plus dire Office du tourisme. Le poste de directeur, directrice est d'ailleurs devenu avec le temps délégué touristique et culturel, depuis peu chef de service tourisme, culture et sport. Voilà l'explication à Victor pour TCS. Touring Club Suisse ou Tourisme, Culture et Sport. La grande chef de ce service du tourisme, culture et sport, c'est Anne Brazet. Salut Anne.
Salut.
On est là pour parler de Pâques. Hein. Les auditeurs l'auront compris, c'est un petit peu la thématique de cette édition. Le service tourisme lance un grand jeu de Pâques. Alors qu'est-ce que c'est ?
Oui, c'est une énigme de Pâques. Donc en fait, on invite les familles durant du 7 au 23 avril, les familles petits et grands, à venir chercher à l'Office du tourisme en extérieur pour que ça soit possible de faire le jeu sous n'importe quel horaire. Donc à l'Office du tourisme se trouve une fiche de jeu et puis là, on la prend, on part à la découverte de la ville. On cherche les énigmes qui sont en vitrine de certains commerces et restaurants au centre-ville. Les énigmes nous permettent d'aller de poste en poste, puis de trouver un trésor, de trouver le code du cadenas et d'ouvrir le trésor.
C'est un grand jeu. Et l'avantage, hein, vous l'avez dit, c'est qu'on peut finalement participer n'importe quand. Il y a des coupons de participation. Et puis on part quand bon nous semble.
Oui, exactement. C'est ça qu'on souhaite, c'est que les gens ils puissent réaliser ce jeu n'importe quand, sous n'importe quelle météo, n'importe quel horaire, de jour, de nuit. On peut même réaliser ça de nuit si on a envie. Et vraiment, sans but précis, sans autre but que de s'amuser et puis de découvrir la ville.
Découvrir la ville et puis aussi les commerces du coup de la ville, vu qu'il y a des énigmes à trouver.
Exactement, c'est aussi l'intérêt de pouvoir pousser la porte des commerces et puis découvrir peut-être des choses qu'on connaît pas déjà ou aller tester d'autres choses et retrouver même des choses qu'on connaît déjà.
Alors on va pas refaire toute l'histoire, c'est pas la première année hein, que c'est organisé ce jeu.
C'est la troisième édition.
C'est la troisième année, donc si on remonte 2021-2020, c'est né dans une période qu'on a envie d'oublier, le
exact.
Covid.
Ouais, donc en fait l'idée est partie grâce au Covid, pour une fois.
Et ça a amené des bonnes choses, quelque part.
Ouais, donc là on se remet un petit peu dans le contexte, les restaurants étaient fermés, on pouvait manger que en prenant à l'emporter en extérieur, les manifestations n'étaient pas autorisées, les rencontres de personnes aussi, je pense qu'à cette époque-là peut-être qu'on pouvait se voir qu'à 3, 4 ou 10 personnes, je me souviens plus. Mais voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir un jeu en extérieur, que les gens s'amusent. Et ça a été un super succès en fait. On a eu 500 personnes qui ont participé au jeu sur 2 semaines. Et là, c'était vraiment génial de voir à nouveau les gens parcourir la ville et puis s'amuser en extérieur. Et du coup, profiter aussi des restaurants pour aller chercher à l'emporter et manger sur nos différentes places de pique-nique.
Des grandes possibilités d'animation, donc. Ça dure 2 semaines. Vous avez, de votre côté, un petit suivi au fur et à mesure que les gens finissent le jeu, déposent leur nom. En fait, non, ils doivent juste ouvrir le cadenas et puis ça s'arrête là.
Comment non, alors au moment où on ouvre, où on trouve le code du cadenas, on ouvre ce coffre. Et puis là, il y a une petite fiche à remplir pour participer à un tirage au sort. Et du coup, ça nous permet aussi de savoir combien de participants à réaliser ce jeu. Mais aussi, on tire au sort 30 gagnants qui vont recevoir des lots pour enfants et familles pour aller découvrir les différents sites touristiques et de loisirs de la région.
Toutes les excuses sont bonnes pour faire découvrir d'autres choses.
Et des excellents chocolats qui sont faits tout spécialement pour nous par la chocolaterie de Montet-Raffin.
Ah, et puis des bons chocolats en plus. Clin d'œil à Victor qui est à côté de moi et qui mange justement un chocolat de Pâques. C'est la thématique.
Voilà.
Ça, c'est un exemple hein, d'une animation qui est organisée en ville pour faire vivre un petit peu la ville. J'ai évoqué les différentes manifestations qui rythment l'année. Anne, tu es chef donc de ce service, hein, tourisme, culture et sport. Ça englobe beaucoup de choses, tout ça.
Oui, alors ça englobe beaucoup de choses. Donc, tout d'abord, le tourisme, donc l'Office du tourisme de Saint-Maurice, qui est sa priorité, c'est l'accueil touristique, bien sûr, et c'est de faire parler de la ville comme étant une destination alentour, donc régionale, mais aussi suprarégionale et mondiale.
Mondial, bien sûr, avec cette abbaye, entre autres.
Exactement.
L'office qui a déménagé hein, maintenant oui. À la gare depuis peu, donc c'est aussi un emplacement peut-être plus pratique.
Oui, assez stratégique aussi. Donc on a une autre clientèle que celle qu'on avait à l'époque au centre de la rue. On n'est pas moins bien placé ou mieux placé. Je pense que c'est deux emplacements qui sont complètement différents. Ce qui est chouette, c'est vraiment les locaux. Là, on a un espace de travail qui est vraiment magnifique, un grand hall d'accueil avec de quoi accueillir les gens bien, une belle visibilité aussi. Et puis voilà, à la gare, ben, c'est clair que c'est pour la mobilité douce et tout, c'est très stratégique de pouvoir être à la gare et d'accueillir toutes les personnes qui arrivent en train.
Je me souviens à l'époque, quand on allait acheter les billets dans ce grand hall de gare, ça résonnait un peu. Ça résonne toujours.
Ça résonne toujours, mais bientôt plus.
Bientôt plus.
On va trouver une solution.
Pour améliorer le confort. Alors voilà, le tourisme, c'est peut-être la chose la plus visible. La culture, Saint-Maurice se profile aussi depuis longtemps comme ville de culture, pas seulement parce qu'il y a des étudiants, mais il y a notamment le Théâtre du Martelet, la Fondation du Martelet qui est très engagée, qui fait vivre le côté culturel de la ville. De votre côté, quelles sont un petit peu les tâches ou quelles sont un petit peu vos missions dans ce domaine-là?
Bon, il y a le Théâtre du Martelet, mais il faut dire qu'on a aussi trois galeries d'art. Pour une si petite ville, c'est assez important d'avoir trois galeries qui sont très, très variées. Elles proposent des expositions qui sont vraiment très variées et elles attirent chacune leur public. Et aussi le château, l'abbaye, c'est aussi des sites culturels qui sont très, très renommés. Donc nous, notre travail, c'est de soutenir ces lieux, c'est de les rencontrer, d'essayer de créer des synergies, de les promouvoir et puis aussi de pouvoir répondre à tout type de demandes et de soutien aussi auprès des sociétés locales, culturelles.
Un exemple de ce travail que vous faites, on en a assez parlé sur Agone Radio ces dernières semaines, il y avait le week-end passé ce vernissage commun des différentes galeries d'art et du château, 5 vernissages en même temps, c'est un exemple typiquement de choses qui sont faites pour un peu synchroniser les gens et faire que tout se passe bien entre ces différents acteurs.
C'est ça c'est une superbe synergie qu'on a pu trouver et réaliser concrètement avec cette date une fois par année où tous les lieux d'exposition vernissent le même jour. Et c'est reconnu, notamment en Valais, où beaucoup d'autres nous jalousent pour ça.
Voilà.
Parce que Sion, Martigny, d'autres villes souhaiteraient faire pareil et encore des difficultés à avoir du répondant de la part de chacun des acteurs culturels.
À fédérer ces différentes personnes. Alors, on organisera peut-être un jour un atelier comment réussir à fédérer les acteurs culturels sur une même date. Dans TCS, il y a aussi sport. Alors, c'est vrai qu'on sait qu'il y a beaucoup de sociétés sportives à Saint-Maurice. On ne pense pas en premier lieu au Saint-Maurice comme une destination de sport. Il y a quelque chose dans ce domaine?
Oui, alors il y a effectivement énormément de sociétés sportives à Saint-Maurice, mais aussi énormément d'infrastructures, ce qui fait qu'on a autant de sociétés sportives. Et puis là, voilà, on essaye d'être d'avoir une relation proche de chacune de ces sociétés, d'essayer de répondre à leurs besoins. On est vraiment leur répondant, on les soutient dans les infrastructures financièrement parlant, et aussi lorsqu'ils ont des événements particuliers ou des projets comme par exemple l'UHC, ça fera la troisième édition cet été, qui viendront installer un terrain en outdoor sur la place Val-de-Marne.
Voilà, c'est le club de Unihockey hein, qui s'installe sur la place du Val-de-Marne et puis qui propose de découvrir le sport. Là aussi, c'est quelque chose où vous êtes facilitateur.
Oui, exactement. Ouais. Et puis, on a aussi une piscine communale, en fait. Et dans le sport, se trouve aussi dans ce dicaster, se trouve aussi la gestion de cet établissement pour l'ouverture au public, faire venir différentes sociétés utilisatrices, aussi les écoles qui viennent tous les matins. Et là, vous aviez eu, il n'y a pas longtemps en arrière,
Renaud Lacroix qui est venu nous parler de toutes ces activités et fourmis d'idées.
Exactement.
Je pense que c'est aussi des supports. Alors, c'est vrai que le sport, ça se mêle aussi... l'attractivité touristique. On a en Valais, par exemple, des projets qui se développent dans le domaine des parcours de VTT qui concernent aussi notre commune.
Oui, exactement. Il y a
l'antenne région Valais-Romont.
Voilà, merci beaucoup. qui a un grand projet de développer toute une ligne ou un itinéraire VTT qui traverserait tout le Valais. Et Saint-Maurice est touché à mai, notamment. Après, le VTT, c'est encore un sujet qui est assez difficile parce qu'il faut homologuer les parcours pour pouvoir les rendre publics et un peu sécurisés. Mais voilà, Saint-Maurice, on a notre carte à jouer. Par contre, on a un terrain de jeu qui est pas forcément facile pour le VTT. Mais voilà, c'est peut-être un projet grâce à l'antenne Région Valais-Romand qu'on va pouvoir concrétiser et aller plus approfondir et puis améliorer cette offre qui actuellement est assez faible.
Bon, on a aussi de quoi marcher, je le dis pour moi comme ça, c'est vrai qu'on a tout un tas de choses magnifiques à faire. Peut-être une dernière question, on a évoqué tout un tas de choses différentes, donc on imagine que vous avez un quotidien qui est assez chargé et varié. Anne Brazet, il y a quelque chose que tu préfères dans toute cette gamme de fonctions qui t'occupe dans la journée ?
Moi, j'adore justement le fait que ça soit complètement varié, un peu l'effet couteau suisse. C'est un peu la meilleure compétence qu'on puisse avoir à l'Office du tourisme ou dans ce service, du coup. Et en fait, pas deux journées se ressemblent. C'est ça qui me passionne. Et les projets sont toujours très, très ambitieux et très divers. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on fait rien tout seul. On a besoin de plein de monde autour de nous. Et puis, c'est aussi cette relation humaine qu'on a avec chacun des services et puis aussi avec le public qu'on reçoit, avec les collaborations aussi interstructures, parce qu'on a beaucoup, on travaille beaucoup avec les acteurs touristiques et culturels de Saint-Maurice, mais aussi alentour, en Valais, Chablais, même Suisse Tourisme qui vient aussi. C'est ça qui est super passionnant dans ce travail.
Autre chose passionnante, on revient dessus, cette course aux œufs, donc c'est les dates du 7 au 23 avril. Pour participer, on rappelle comment ça se passe, il faut aller chercher une petite carte de participation.
Oui, exactement. Donc ça démarre à l'Office du Tourisme et à l'Office du Tourisme se trouvent en extérieur les fiches de jeu. Et il faut compter environ une heure et demie pour se balader tranquillement, trouver les postes et résoudre les énigmes et enfin trouver le trésor.
Et on souhaite bonne chance à tout le monde pour cette grande énigme de Pâques qui dure 2 semaines. Merci Anne d'être venue nous rendre visite. Bonne soirée.
Avec plaisir. Merci. Bonne soirée.
Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, song. And
100% agonoise.
Nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Davet pour le traditionnel rendez-vous de l'espace avec le ciel d'avril 2023. Bonjour Stéphane.
Bonjour Victor.
Alors pour l'astronomie, à partir du mois d'avril, c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'on a eu ce changement d'horaire le week-end passé, donc le soleil va se coucher beaucoup plus tard.
Alors oui, en effet, le soleil se couchera à 20h et donc on pourra commencer à observer le ciel aux alentours de 20h30, disons, 9h moins quart.
Au niveau de la luminosité, on dit qu'on peut mieux observer les astres l'hiver parce qu'il y a moins de luminosité. C'est vrai que quand on va sur le printemps et l'été, c'est plus compliqué.
Ah bah oui, parce que là, on parle de 20h pour le coucher du soleil, mais l'été, quand on est au solstice d'été, eh ben on arrive à des fois jusqu'à 10h le soir, 9h30, 10h le soir. Et donc, ça veut dire que si on veut vraiment pouvoir observer le fond de ciel, ça commence que vers les 11h. Et puis après, le soleil se relève de l'autre côté aussi très tôt finalement. Et donc la nuit est beaucoup plus courte qu'en hiver.
Donc on va vers une période moins favorable aux astronomes.
Exactement, moins favorable en tout cas en termes de temps d'observation du ciel.
La pleine lune toujours au début du mois.
Exactement, donc de nouveau on est autour du 6 du mois, et puis avec une nouvelle lune qui se déroulera aux alentours du 20, ce qui signifie que le 20 du mois d'avril, on aura la nouvelle lune, ça veut dire que la lune est noire, donc c'est là que ça sera le plus optimal entre guillemets pour observer le ciel profond.
Au niveau des planètes?
Alors au niveau des planètes, ben le bal de Jupiter et Saturne est terminé. Hein. On peut plus observer ces planètes. Elles se couchent en même temps, grosso modo, que le Soleil se couche, d'une certaine manière. Donc ça veut dire que ben on peut malheureusement plus les observer.
Donc elles vont en direction. Elles sont derrière le Soleil.
Voilà, en fait, Saturne a déjà un petit peu passé, on en parlera tout de suite. Saturne est observable de nouveau maintenant le matin, mais très très tôt, juste avant le lever du soleil, durant le mois d'avril.
Donc Jupiter et Saturne, ça veut dire que pour quelques mois, on ne les verra plus.
Voilà, en tout cas pas durant la nuit. Il faudra parfois parfois juste avant l'aube ou bien juste après le crépuscule. Mais disons qu'elle est en pleine lune, elles seront absentes. Par contre, évidemment, si vous regardez certains télescopes assez puissants qui peuvent observer même la journée, alors comme elles sont près du Soleil entre guillemets, ces planètes, pendant la journée, on pourrait les observer. D'ailleurs, il y a certains télescopes où on peut pointer le Jupiter et on voit Jupiter à travers le ciel bleu en fait. Si c'est télescope qui est suffisamment grand pour capter assez de lumière pour les observer.
Mais à l'œil nu, le seul astre qu'on peut voir la journée, c'est outre le soleil, c'est la lune.
C'est la lune, exactement. Notamment au premier quartier, quand le soleil il est en train de se coucher, il y a la lune qui est déjà présente dans le ciel.
Vénus, donc toujours visible.
Vénus, alors oui, alors Vénus sera visible durant tout le mois d'avril et encore quelques temps encore après, au crépuscule, donc au magnifique spectacle d'observer l'étoile du soir.
Donc elle ne bouge pas beaucoup dans le ciel?
Alors, elle ne bouge pas beaucoup dans le ciel parce qu'elle est proche de son élongation maximum. Et donc, la position de la Terre aussi qui tourne autour du Soleil fait que cet astre va être visible, donc Vénus, pendant assez longtemps de ce côté-là du Soleil, finalement.
Pour faire simple, on tourne plus ou moins à la même vitesse.
Pas tout à fait quand même, parce qu'on rattrape Vénus en fait quand on se déplace en orbite, quand la Terre se déplace autour du Soleil. Mais c'est vrai que là, les effets font qu'on peut observer un peu plus longtemps Vénus qu'une autre planète.
Donc un mois relativement pauvre pour les planètes.
Oui, et puis il y a toujours Mars donc, qui est visible également. Elle est toujours visible déjà durant la nuit. On peut l'observer assez facilement. Elle est toujours à peu près au milieu du ciel, aux alentours de minuit, 1h du matin.
Un peu rougeâtre, oui.
Un peu rougeâtre, oui.
Les constellations.
Alors, dans les constellations, on a... les constellations tournent aussi, hein, les saisons se changent, donc on a des constellations qui changent également. On a maintenant, au sud, aux alentours de 22h, on a le Cancer, qui se trouve assez haut dans le ciel, avec son étoile principale qui est Akubens.
C'est une forme de crabe.
Alors, comme d'habitude, les constellations, elles ont toute une forme, qui a une représentation, une illustration. C'est toujours difficile dans le ciel de dire « Ah là, je vois un crabe » ou « Ici, je vois une déesse ».
C'est pas Cassiopée avec le W ou
voilà, c'est pas aussi flagrant. Et puis les étoiles sont assez faibles aussi dans cette constellation quand même, faut le dire. Par contre, il y a des objets intéressants qu'on peut observer dans cette constellation, notamment... un amas d'étoiles ouvertes qui est très très riche, un des plus riches du ciel de sous nos latitudes, c'est M44, donc le 44e objet du catalogue de Messier, qui est le catalogue le plus connu et le plus simple à observer dans le ciel. Et cet objet, ça s'appelle la ruche, mais on l'appelle aussi la crèche. C'est environ 1000 étoiles qui sont toutes serrées les unes derrière les autres, qui sont nées en même temps dans le même gros nuage de gaz et de poussière et qui a formé cette magnifique amas d'étoiles. On appelle ça un amas d'étoiles ouvert.
Pourquoi ouvert ?
Simplement parce que ça résulte du collapse d'un énorme nuage de poussière et de gaz. Et toutes ces étoiles sont nées en même temps, alors que ce qu'on pourrait appeler un amas globulaire, les étoiles sont encore beaucoup plus serrées, mais c'est un objet qui se trouve dans le halo de notre galaxie. C'est des objets beaucoup plus lointains que les amas d'étoiles ouverts, en fait.
Donc des étoiles qui sont relativement jeunes.
Exactement, donc tous ces amas d'étoiles sont forcément des étoiles jeunes, parce qu'après avec le jeu des rotations de toutes ces étoiles autour du centre galactique, elles vont gentiment s'éloigner les unes des autres, et au bout d'un moment, il n'y a plus d'amas. Ces étoiles vivent leur vie seules, et puis elles se déplacent dans la galaxie.
Donc une pouponnière d'étoiles.
Exactement, comme on en avait parlé déjà avec Orion et la fameuse grande nébuleuse d'Orion en fait.
D'autres constellations ?
Oui, alors il y a d'autres constellations un peu moins connues. Il y a l'Hydre femelle et puis la constellation de la Boussole. La Boussole, c'est une constellation déjà du sud, parce que l'équateur céleste monte dans le ciel et on commence à voir à l'horizon des constellations qui en fait sont des constellations du sud, que les explorateurs, quand ils ont été conquérir les pays du sud, quand ils se sont déplacés sur l'océan Pacifique notamment ou dans l'Atlantique en direction de l'Afrique, on peut observer dans le ciel et on leur a donné des noms qui ne sont pas du tout des noms liés à la mythologie. Finalement, quoique on a introduit cette boussole, elle fait partie de ce qu'on pourrait appeler le grand navire Argo. Alors on a aussi les voiles, la poupe, la proue et notamment cette fameuse boussole.
L'hydre, c'est quand même un nom. Donc il y a l'hydre femelle et la boussole. La boussole, c'est un nom qui est récent. L'hydre, c'est quand même un nom grec.
Oui, alors absolument. L'hydre, effectivement, l'hydre femelle.
Au niveau des phénomènes astronomiques intéressants.
Alors dans les phénomènes astronomiques intéressants, on parlait des planètes, des planètes en disant que c'était un mot assez pauvre. Il y a quand même un moment intéressant pour les planètes, c'est Mercure. On parle souvent de cette planète la plus proche du Soleil, très difficile à observer. Durant ce mois d'avril, autour du 8 et du 11, on va pouvoir vraiment l'observer. C'est le moment, je dirais, dans l'année, le plus propice à l'observation de cette planète, parce qu'elle a atteint son élongation maximum à ce moment-là, le 11 en fait. Donc c'est là, si vous voulez, une fois observé Mercure, je pense que c'est cette période-là, à l'aube, qu'il faudra observer cette planète.
Donc en direction du lever du soleil.
Exactement, direction du lever, juste avant que le soleil se lève, essayez d'observer dans l'aurore un objet un petit peu brillant, un point brillant assez proche de l'horizon, ça sera Mercure.
Plutôt en montagne, hein.
Alors, pour nous, oui, parce que depuis la plaine...
Ouais, et puis l'assez, aucune chance.
Avec les montagnes, il faudrait presque avoir un horizon. Donc, il faudrait être assez haut pour pouvoir avoir un horizon. Sinon, il faut se déplacer en plaine, mais en plaine suisse, dans le plateau suisse, pour essayer de pouvoir observer cet objet.
Donc, les gens qui font de la montagne entre le 8 et le 10 au matin, ils peuvent espérer voir cette planète.
Voilà, exactement.
Un rapprochement entre Lune et Saturne.
Oui, alors de nouveau, on parlait des planètes. Et ben voilà, Saturne, elle repointe un petit peu son nez le matin. On l'avait perdu de vue la nuit. Ben, elle se lève le matin, un peu, juste avant le soleil. Hein, on est à 6 heures du matin. Et puis, il y a un joli rapprochement entre la Lune et cette planète. Le 11.
Ceux qui veulent repérer donc, cette Saturne, qui ne savent pas la repérer, simplement le 16, regardez, à côté de la Lune, il y a Saturne.
Exactement.
Relativement brillante.
Oui, effectivement.
Une éclipse totale aussi.
Oui, alors j'ai une éclipse totale, ça ne sera pas en Suisse, malheureusement, mais ça vaut la peine quand même de le dire. C'est aussi un des grands événements quand même de l'année, cette éclipse totale de soleil qui aura lieu en Australie. Donc, elle n'est pas du tout observable dans notre hémisphère, mais étant donné que ces éclipses totales, souvent, elles tombent soit dans le Pacifique ou dans l'Atlantique ou sur des océans, finalement, c'est assez intéressant de le préciser, puisque peut-être que certains de nos auditeurs iront faire un petit voyage, peut-être durant les vacances, le 20, éclipse totale de soleil. En Australie.
Pourquoi on en parle tout le temps des éclipses totales ou partielles du soleil? Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose un phénomène astronomique rare, ou est-ce que c'est très intéressant pour les astronomes?
Alors c'est un petit peu des deux. Alors c'est pas si rare que ça, mais quand même, je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu observer une éclipse totale de soleil.
À part Tintin, en tout cas.
Ou alors on se déplace. Il y a des chasseurs d'éclipses totales de soleil, hein, qui font toutes les éclipses totales de soleil possibles. Et puis c'est quand même un phénomène assez extraordinaire. Quand on regarde pendant une éclipse totale de soleil, on voit en fait ce qu'on appelle la couronne solaire, qui n'est pas visible en temps normal. Et vraiment, ça fait comme si on avait un œil qui nous observait depuis le ciel. Ça, c'est quand même un phénomène impressionnant. Ça vaut la peine, je pense, une fois dans sa vie, d'aller observer une éclipse totale de soleil.
On peut le voir dans un centre astronomique. Par obscuration du soleil.
Oui, alors, mais c'est pas quand même pas la même chose de regarder ça à travers un instrument qui simule une éclipse. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a étudié la couronne solaire. Au début, c'était grâce aux éclipses totales, mais on a assez vite construit des appareils qui permettaient de simuler cette éclipse. Mais c'est pas du tout la même sensation que de voir arriver une ombre à l'horizon et puis tout d'un coup il fait nuit en pleine journée. C'est quand même quelque chose, c'est assez phénoménal. Hein. Il y a des tas de phénomènes qui se produisent. Il fait tout d'un coup beaucoup plus froid. Il y a un vent qui commence à souffler. On voit les animaux qui commencent à croire que c'est la nuit, donc les oiseaux vont se coucher. Enfin, se coucher. On sent qu'il y a une ambiance tout à fait particulière.
D'accord. Et aussi des étoiles filantes, toujours.
Oui.
Pour ça qu'il n'y avait qu'en août, puis apparemment.
Mais en fait, les étoiles filantes, il y en a toute l'année, en fait.
Et donc là, le 22 à 18h.
Alors, ce n'est pas 18h, c'est 18 par heure. C'est le taux horaire du nombre de ces étoiles filantes. Donc, c'est en moyenne, à peu près 18 par heure. Ça peut paraître pas beaucoup, mais les Lyrides sont assez connus pour être des étoiles filantes assez brillantes. Et donc, ça peut être un joli spectacle si on se met sur son transat dans le jardin, avec une bonne veste encore, hein, au mois d'avril. Il faut encore se couvrir un tout petit peu. Mais regarder à peu près le milieu du ciel vers le zénith, et là on pourrait observer un certain nombre de ces étoiles filantes.
D'accord, donc coucher la tête en l'air.
Exactement.
Tout simplement.
Tout simplement.
Et donc chaque 3 minutes, il y en a une qui passe.
Grosso modo, voilà, c'est en moyenne. Tout d'un coup, il peut y en avoir deux de suite, et puis après plus rien pendant 5 minutes, ça dépend quoi.
Et le week-end passé, on a une grosse étoile filante qui a passé, qui s'appelle 2023 DZZ ou DZ2, donc un astéroïde qui a passé entre la Lune et la Terre.
Oui.
Entre 40 et 100 mètres, qui est appelé City Killer. Il faut qu'on s'inquiète.
Absolument. Non, non, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que c'est des phénomènes qui sont assez rares quand même. Hein. Ici, elle ne frappe pas la Terre, c'est qu'elle passe entre la Terre et la Lune. Alors, ça peut paraître assez impressionnant, mais il y a quand même 380 000 kilomètres entre la Terre et la Lune, donc il y a la place de faire passer pas mal de choses. Ces astéroïdes, City Killer, ça veut dire que c'est pas la fin de l'humanité, c'est simplement, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais grosso modo, la taille d'une ville qui est détruite, d'une certaine manière. Alors, c'est déjà rare que ça percute la Terre, c'est encore plus rare que ça soit dans une zone habitée. On a peut-être tous encore le souvenir de cet astéroïde qui était passé au nord de la Russie,
oui, oui.
Qui avait fait exploser, exactement, qui avait fait exploser les vitres à des kilomètres à la ronde parce qu'il avait, en pénétrant l'atmosphère, ça avait fait une onde de choc phénoménale. Et puis, en fait, on a retrouvé les débris de cet astéroïde. Il y en a assez peu qui sont tombés, qu'on a pu récupérer.
C'est une zone habitée, ouais.
Alors voilà, disons que c'est quand même une zone. C'est un des astéroïdes sur une zone habitée qui atterrit ces 20 ou 30 dernières années. Il n'y en a pas tant que ça, finalement.
Donc, pas d'inquiétude, même si on le découvre simplement un mois à l'avance, et puis qu'il y a eu toutes des théories, notamment avec Apophis, en disant... Enfin...
Alors, on n'est pas à l'abri, évidemment. Je veux dire, un coup de pas de chance. Après, des astéroïdes qui font plus que... Là, c'est un astéroïde qui faisait entre 50 et 100 mètres de diamètre. Ça paraît encore assez petit. Ça peut arriver qu'on ne les voie pas. Mais après, si on prend alors des astéroïdes qui pourraient amener à la fin de l'humanité, ça, c'est déjà des astéroïdes beaucoup plus gros, de plusieurs centaines de mètres. Ceux-là, on les a assez bien cartographiés. Normalement, on ne devrait pas avoir de surprise tout d'un coup de se dire dans 3 semaines, on a un astéroïde de 1 km qui nous arrive dessus. C'est pas impossible, mais c'est fort peu probable. Quand
ça
même.
Fait marcher la science-fiction, mais on est à l'abri. Merci beaucoup, Stéphane.
Mais avec plaisir, Victor.
Et au mois prochain. Un grand merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Jeudredi. Merci à nos invités, Gilles Roduit, Cédric Roser, Anne Brazet et Stéphane Davet. Jeudi prochain, nous ouvrirons une grande page consacrée à la politique énergétique communale en compagnie de Xavier Lavanchy, président de la municipalité de Saint-Maurice, et d'Augustine Rappa, déléguée communale de l'environnement, dans la perspective de la soirée d'information à la population du 18 avril prochain. Et nous entrouvrirons une porte de la forteresse de Dailly en compagnie de Pascal Bruchet, colonel Bruchet, président de la CIPAD, communauté d'intérêt pour l'artillerie de Dailly, qui réouvrira ses portes au public le 22 avril prochain. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et écoutez-nous sur Internet et sur le DAB+. Vos réactions par WhatsApp au 079 150 1890. Bonne suite de Jeudredi soir et joyeuses fêtes de Pâques à toutes et à tous.